Consommer local vous intéresse ? Ce podcast de Sud-Ouest est accompagné par le mouvement hashtag Bordeaux local, une campagne qui met en avant les acteurs économiques girondins, les établissements, les hommes et femmes qui jouent la carte des produits locaux et des vins de Bordeaux. Aujourd'hui, plus que jamais, l'ensemble des acteurs locaux doivent se soutenir et participer à une économie plus solidaire, responsable et engagée. C'est pourquoi l'interprofession des vins de Bordeaux, l'UMI Gironde et l'Office de tourisme et des congrès de Bordeaux Métropole ont conçu ce mouvement, avec l'adhésion de nombreuses personnalités. Si vous aussi vous êtes hashtag Bordeaux local, rejoignez-nous en découvrant les établissements qui mettent en avant les produits locaux, en vous inscrivant sur bordeauxlocal.fr et en partageant le hashtag Bordeaux local.
Le virus du vin, ça se transmet dans la famille, c'est bien connu. Alors pourquoi, lorsqu'on a 20 ans, même pas 20 ans, on se destine à travailler dans le vin, peut-être reprendre une petite propriété viticole dans un contexte ô combien difficile à Bordeaux? Comment on se prépare? Comment on fait déjà face aux difficultés du moment? On en parle aujourd'hui avec deux femmes fortes, si j'ose dire, une mère et sa fille, Béatrice Anne Gouin et Diane Danonville, du château Vieille Tour à côté de Cadillac. Bonjour à tous, vous écoutez Les 4 saisons du vin, Les 4 saisons du vin, le podcast de la rédaction de Sud-Ouest qui raconte le monde du vin, qui revient sur ses faits majeurs et qui tente d'en décrypter les enjeux. Saison 5, épisode 26, je suis Mathieu Hervé. Je suis avec César Compadre, responsable de la rubrique vin à Sud-Ouest. Bonjour César.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Et nous recevons aujourd'hui, je le disais, Béatrice Anne Gouin et Diane Danonville. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, nous vous recevons et celui qui est à l'instigation de cette invitation est à côté de moi. César, je me tourne vers toi parce que lorsqu'on a organisé ce podcast, tu m'as dit... J'ai rencontré une mère et sa fille, des personnes à qui je voudrais qu'on donne la parole. Alors, pourquoi, comment, dans quelles circonstances?
Parce que j'ai rencontré ces deux dames lors de la manifestation qui a eu lieu devant la préfecture au mois de janvier. On le sait, le vignoble est en crise. Il y a eu deux manifestations avec des tracteurs, des centaines de viticulteurs et... Béatrice, Anne et Diane étaient là. Donc, je les ai rencontrés, je leur ai posé des questions. Et Mathieu, on va en parler. Ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est que malgré la difficulté de la conjoncture et les difficultés économiques, Diane me disait avec tout son cœur qu'elle pensait quand même devenir viticultrice. Et donc, je me suis dit quand même, distillation et arrachage d'un côté et espoir de l'autre, ça pouvait nous faire un joli podcast.
Alors très bien, mais justement, d'abord je vais me tourner vers vous, Béatrice Anne. Présentez-nous le château Vieille Tour à côté de Cadillac.
Alors, château Vieille Tour en est une toute petite propriété familiale. Alors, petite propriété, enfin, pourquoi j'ai dit ça? Parce que c'est vrai qu'à Bordeaux, on connaît des grosses propriétés. Alors nous, toute petite propriété, ça veut dire quoi? C'est 15 hectares, voilà, à peine, et que nous cultivons à deux. Donc en fait, c'est une propriété qu'on cultive à quatre mains. Donc voilà, petite propriété familiale. On est situé sur les coteaux de Cadillac, à La Roque, et sur des terres viticoles qui sont absolument sublimes.
Vous la cultivez, cette propriété, avec Jérôme Gouin, avec une rencontre tous les deux qui, tout de suite, a été placée sous le signe du vin, si je ne m'abuse.
Ben exactement, parce qu'au début, il a fait appel à moi en tant que consultante. En fait, j'étais censée l'aider uniquement un petit peu dans la commercialisation du vin, éventuellement à trouver de nouvelles orientations pour son vignoble. Parce qu'en fait, il s'est retrouvé face à une problématique, c'était fin 2019, la taxe Trump, je ne sais pas si vous vous en souvenez.
On en a beaucoup parlé.
On l'appelle comme ça, mais effectivement, c'était une sorte de taxation sur beaucoup de produits français, dont le vin. Et qu'est-ce qui s'est passé pour un viticulteur qui, comme lui, vendait la totalité de son vin en négoce, ou la quasi-totalité du vin, en vrac, bien sûr. C'est-à-dire que le vin quittait les chais pas en bouteille, mais en camion-citerne. Alors même s'il en faisait un petit peu en bouteille, la majorité était en vrac. Et là, il s'est retrouvé avec 700 hectolitres de vin dans le chai, et qui n'était pas vendu. Alors là, qu'est-ce qu'on fait?
Le mur, devant lui, le mur.
Voilà, le mur devant lui, la grande question. Donc effectivement, on ne se connaissait pas à l'époque et ben, on a commencé par goûter les vins. Et c'est vrai que la première question que je me suis posée, c'est « Mon Dieu, où c'est que je vais atterrir dans les côtes de Bordeaux ?» Voilà, on côtoie un petit peu de tout. Et donc finalement, je ne savais pas à quel personnage j'allais avoir affaire et je me suis retrouvée face à quelqu'un de passionné et dont j'ai trouvé les vins absolument excellents. Voilà, je me suis retrouvée face à un talent qui s'est retrouvé coincé dans une situation qui le dépassait.
Et il a finalement la passion partagée à tous les sens du terme. Et,
oui, exactement, parce que bon, maintenant on est mariés entre-temps. Ce n'est pas si vieux que ça, ça date d'il y a 3 ans. Mais quoi qu'il en soit, en fait, on a un petit peu réfléchi à comment changer. Alors, changer de modèle économique, ça pouvait sembler un petit peu pompeux, mais comment arriver à vendre ses vins dans un contexte qui était juste avant le Covid, voilà.
Alors, comment on vend des vins dans un autre contexte? On va y revenir tout à l'heure. Mais d'abord, je vais me tourner vers toi, Diane. Toi, tu as 18 ans et tu es au lycée La Tour Blanche dans le Sauternais. Est-ce que cette passion du vin, elle est née ces dernières années? Est-ce que tu t'y es toujours destinée? Raconte-nous, toi, cette relation que tu as avec ce produit et avec cet univers.
Alors moi, j'ai toujours été intéressée par le vin, grâce à ma maman, qui était formatrice dans le vin. Elle m'a toujours amenée avec elle dans les visites des châteaux, elle m'a toujours fait déguster. J'ai fait mes premiers stages au collège dans le vin. Et ensuite, quand elle s'est mariée avec Jérôme, il m'a complètement transmis sa passion. Et vraiment, je suis devenue passionnée à mon tour.
Tu passes le bac pro, hein, c'est ça?
Oui, c'est ça. Du coup, je suis partie dans les études de Vitigno. Et maintenant, l'année prochaine, je passe le bac. Et pour poursuivre ma passion.
Ça se passe bien?
Ouais, super bien, vraiment.
Moi, une des premières questions quand même que je me pose, et c'est vrai que, tu vois, t'as 18 ans, dès tes 18 ans, alors que t'es au lycée, tu vas avec ta maman manifester, donc dans un contexte qui est aujourd'hui difficile pour Bordeaux. Comment tu te projettes? Est-ce que tu te dis, ok, c'est juste un moment difficile à passer, et puis ça y est, le monde de Bordeaux tel que je le connaissais ou tel que je l'ai envisagé, ça repartira exactement pareil? Ou alors toi, tu te dis, ok, on va changer des choses et ça repartira?
Moi, je pense qu'il faut changer des choses. Je pense qu'il faut qu'il y ait pas mal de gens qui arrachent. Qu'il y a trop de vignobles à Bordeaux, il y a trop de vignes, ça a beaucoup trop planté. Il faut qu'il y ait pas mal de gens qui arrachent, histoire que plus ou moins le meilleur reste, et qu'ensuite on puisse repartir de plus belle, parce que pour l'instant, moi, mes parents, ils galèrent vraiment, ils ont beaucoup de mal dans la vigne, parce qu'il y a beaucoup trop de monde. Et il faudrait limite qu'on diminue de moitié pour que nous, plus tard, on puisse repartir plus fort, de plus belle, quoi.
César, c'est une belle, c'est un bon résumé de la surproduction, finalement.
C'est un bon résumé de la surproduction. Alors, quand Diane dit qu'il faudrait arracher de moitié, je pense qu'il y a beaucoup de producteurs qui vont avoir du mal de tête. Non, en fait, il faut rappeler 2 ou 3 chiffres. Hein. Le vignoble de Bordeaux, c'est 110 000 hectares. Et au niveau syndical, il y avait des demandes pour arracher entre 10 et 15 000 hectares. D'ailleurs, c'était le sujet de la manifestation où on s'est rencontrés. Ce qui s'est passé depuis, c'est qu'un plan d'arrachage a été acté par les pouvoirs publics. Il a été dégagé 57 millions d'euros. L'État d'un côté et le CIVB de l'autre, qui va vraisemblablement contracter un emprunt pour financer ce plan. Et l'idée, c'est qu'avec ces sommes-là, il s'arracherait à Bordeaux autour de 9 000-9 500 hectares, d'où 8 à 9% du vignoble. Et en parallèle de ça, on va sûrement en parler, puisqu'il y avait 700 hectos dans le chai de M. Gouin, il y en a peut-être aussi aujourd'hui. Il y a tout un programme de distillation qui va être mis en place au niveau national. L'idée, c'est que la France distille entre 2 et 2,5 millions d'hectos pour que ces hectos-là ne pèsent pas sur les marchés. Donc le plan anti-crise, c'est arrachage d'un côté pour une mesure structurelle et distillation de l'autre pour une mesure plus conjoncturelle.
Alors revenons maintenant au château Vieille Tour. On est en 2019 et donc la situation est compliquée. Vous avez finalement une vision où vous voyez la lumière quelque part. Comment vous avez remis les choses à plat avec Jérôme Gouin ?
Mais effectivement, j'avais ce côté formatrice. Voilà, donc je formais en école de sommellerie. J'ai également formé des futurs commerciaux du vin. Et forcément, j'avais énormément d'espoir. J'étais remplie d'espoir. Et surtout, alors, l'anecdote est assez sympa, c'est que je formais surtout donc, au marketing du vin, mais également au vin du monde. D'accord ? Sur des programmes internationaux où on explique les vins du monde, à Bordeaux. Voilà, et on reviendra dessus plus tard, mais quoi qu'il en soit, j'étais vraiment bourrée d'espoir et j'ai dit à Jérôme, j'ai dit écoute, bon, tes vins sont excellents, il s'agirait de les vendre en bouteille. Bon, il n'avait pas de fiche technique, il n'avait pas de site internet, donc ce sont des choses qu'il a fallu créer ensemble, en fait, raconter une histoire, savoir finalement vers quoi on s'oriente. Hein, qu'est-ce qu'on raconte dans une toute petite propriété viticole qui n'a pas une histoire séculaire comme dans d'autres propriétés peut-être. Donc voilà, donc nous on a décidé un petit peu de raconter un petit peu la passion du terroir, de parler un peu de biodiversité, d'environnement, de pas mal de choses et puis surtout de ce côté, voilà, je suis vigneron depuis toujours et voilà pourquoi j'aime mon métier. Donc ça on a cherché à la raconter, on a retravaillé un petit peu la gamme des vins pour pouvoir la proposer sur le marché. Il a fallu aussi avoir une politique de prix cohérente, ce qui n'est pas toujours évident pour un vigneron voilà, qui travaille seul ou avec ses parents à la propriété, qui sont retraités. Donc, ce n'est pas quelque chose d'évident à mettre en place. Et puis, bon, petit à petit, tout ça s'est fait. Et malgré moi, en fait, alors que je partais pleine d'espoir à frapper à la porte des différents cavistes, des négociants, etc., eh bien, je me suis retrouvée face à des portes fermées les unes après les autres. C'est-à-dire que de vouloir accéder au marché du vin, de vouloir changer de modèle économique et de dire, voilà, je fais de la bouteille, on fait des bons vins, on fait de la qualité, on aimerait trouver de nouveaux partenaires commerciaux, eh bien, toutes les portes étaient fermées. Rien.
Ouais, là, ce que raconte Béatrice Anne, c'est aussi symptomatique de tout un vignoble qui s'est retrouvé, effectivement, depuis quelques années, avec des vins dont on dit partout, toujours, qui n'ont jamais été collectivement d'une telle qualité, et pourtant, pas de débouché. César.
C'est le Bordeaux bashing, Mathieu, dont on parle autour de ce micro depuis plusieurs années maintenant. Bordeaux n'est peut-être plus à la mode, Bordeaux n'a pas su s'imposer chez les cavistes et les restaurateurs qui sont les prescripteurs. Le marché de Bordeaux s'est écroulé en Chine, le principal débouché extérieur. Les négociants bordelais, il faut le dire, nombre d'entre eux sont frileux et ils se sont essentiellement orientés vers les vins haut de gamme et travaillent beaucoup moins les entrées et les moyennes gammes. La Bourgogne prend un peu le dessus, les vins de Loire sont à la mode, les vins du Midi ont également leur clientèle. Voilà, il y a quand même une espèce de machine à perdre, me semble-t-il, qui s'est mise en route en Bordelais. Et Béatrice Anne et son mari Jérôme, semble-t-il, l'ont pris de plein fouet.
Et oui, et c'est ce que je disais tout à l'heure, où je disais qu'on allait rebondir sur le fait que j'enseignais les vins du monde à des cavistes qui sont aujourd'hui des cavistes à Bordeaux. Et qui vendent tout sauf du Bordeaux. Et effectivement, je reconnais que mon dernier travail de formatrice, j'ai décidé en fait de l'abandonner cette année parce que en fait, je n'y crois plus. J'ai envie de défendre les vins de Bordeaux à Bordeaux parce que en fait, à Bordeaux, il n'y a pas que des grandes marques, il n'y a pas que des grands crus. Et pourtant, ce sont des locomotives magnifiques qui font rayonner en fait le vignoble bordelais, mais qui ne sont pas accessibles à tout le monde. À Bordeaux, il y a des vrais vignerons qui revendiquent des vins de qualité, en fait, de superbes vins à Bordeaux, dans le respect de l'environnement. Alors pourquoi venir les chercher à l'autre bout du monde alors que nous les avons à notre porte ? Et finalement, j'ai un petit peu moi-même changé mon fusil d'épaule.
Vous ne perdez pas espoir quand même ?
Absolument pas. Ah, j'ai plus d'espoir que jamais et au contraire, je veux faire partie aussi de ces porte-parole des vins de Bordeaux qui ont envie de montrer en fait la diversité et surtout la qualité des vins.
Vieille Tour, c'est quel niveau de tarif ?
Château Vieille Tour, alors on est sur des entrées de gamme à 7 euros et notre plus belle cuvée va sortir à 25 euros. Mais là, il s'agit d'un vin qui a été vinifié et élevé en fût de chêne. Un vin rouge en vinification intégrale, on est sur notre cuvée la plus haut de gamme. Voilà, prix moyen 12 euros.
Et je crois, vous m'aviez expliqué quand on s'était rencontrés, que vous réduisez la taille de l'exploitation. Et ça aussi, c'est important.
Effectivement, à 2 sur 15 hectares, c'est plus gérable. Alors, Effectivement, à l'époque, quand j'ai rencontré Jérôme, il gérait seul 25 hectares, avec un coup de main de ses parents, son papa qui l'aidait un petit peu sur la partie commerciale auprès de réseaux Intermarché locaux, vous savez, un petit peu de grande distribution, mais vraiment à l'échelle locale, et sa maman qui lui donnait un petit coup de main aussi pour accueillir les clients à la propriété. Bon, après, ce sont des gens qui ont pris leur retraite, et c'est tout à fait normal, mais Jérôme ne peut pas être à la fois dans son tracteur, dans son chai, et sur le terrain pour vendre ses vins. C'est très compliqué.
Et comment vous avez réduit de 25 à 15? Vous avez laissé des fermages, c'est
Alors
ça
voilà, c'était des fermages qu'il a fallu laisser tomber, voilà, dès lors que nous nous sommes rendus compte qu'ils n'étaient pas rentables depuis de nombreuses années.
Votre objectif, c'est de passer à 15, de 15 à...
Et là, ça sera de réduire encore, de descendre à 10 hectares.
Donc, vous êtes preneuse de la prime d'arrachage.
Oui. Oui, tout à fait. Nous n'allons pas avoir le choix. C'est-à-dire que nous, pour sortir de la crise, nous avons dû présenter un dossier vraiment extrêmement complet. Il a fallu que je refasse un business plan, comme si nous allions créer une entreprise.
À la banque.
Parce que, effectivement, nous avons fait partie des différentes manifestations de manière à chercher des solutions de sortie de crise. Et toutes les réunions n'ont pu conduire à aucune solution immédiate. Et si on ne trouvait pas une solution immédiate, c'était très simple, nous mettions la clé sous la porte. Donc, il a fallu trouver une autre solution. Elle était individuelle. Il fallait trouver un financement. Et aujourd'hui, des investisseurs étrangers ou peu importe, en fait, sur une petite propriété comme la nôtre, c'était impensable. Donc, le seul investisseur, ça ne pouvait être que la banque. Nous avons demandé, en fait, j'ai présenté un gros dossier de restructuration. Et dans tous les scénarios que nous avons proposés, celui qui a été retenu par la banque, ça a été celui dans lequel nous réduisions les surfaces pour travailler de manière totalement artisanale à quatre mains.
Et qu'est-ce qui vous conviendrait comme prime d'arrachage, puisque la profession demandait 10-15 000 euros dans votre business plan, vous l'avez...
Non, dans notre business plan, nous ne l'avions pas du tout envisagé. Mais effectivement, vous savez, à deux... Alors, la seule chose que nous avions envisagée, c'était le fait de ne pas pouvoir salarier. En fait, les charges salariales n'étaient plus du tout supportables pour notre petite structure et nous avions trop de terres. Donc la première question que nous nous sommes posées, c'est est-ce que ces terres-là, nous ne pourrions pas les confier, étant sur de très beaux terroirs, d'autant plus que ces terroirs ont été quand même reconnus lors d'une évaluation des terroirs par le syndicat viticole de Cadillac comme faisant partie des plus beaux terroirs de la région. On s'est dit c'est quand même dommage de faire l'impasse sur des terroirs aussi qualitatifs. Donc, nous les avons proposés, malheureusement sans succès.
Personne
ne veut prendre ces terres. Donc,
un fermage.
Voilà. Donc, même si nous n'avons jamais envisagé le fait d'arracher ces belles vignes, mais vraiment, c'est un arrache-cœur pour nous d'arracher ce sont des vieilles vignes de Merlot qui ont une soixantaine d'années, qui sont superbes, qui n'ont pas souffert de la sécheresse cet été d'ailleurs. Excellent état sanitaire. Mais il n'y a pas le choix. Physiquement. À deux, on ne peut pas cultiver 15 hectares. C'est pas possible. Physiquement, c'est pas possible.
Alors justement, à deux, 15 hectares, peut-être à deux, 10 hectares. Et puis là, je me tourne à nouveau vers Diane, parce qu'elle écoute très attentivement les propos de sa mère. Peut-être à trois, 10 hectares. La question que je me posais justement, Diane, c'est... Toi, comment tu te projettes? C'est-à-dire que là, tu es au lycée. Est-ce que après le lycée, tu veux faire une formation complémentaire? Est-ce que tu veux aller travailler? Est-ce que tu veux travailler à la propriété? Ou est-ce que tu veux aller travailler ailleurs? Comment, quand on a 18 ans, après les propos de ta maman, comment tu vois les choses, toi?
Moi, je voudrais pousser mes études déjà. Avant mon bac... Ensuite, continuer en BTS. Après ça, je pense que j'irai pas plus loin dans mes études. Mais par contre, je resterai pas chez mon beau-père. J'irai voir ailleurs. Je veux apprendre toutes les manières possibles, plus ou moins. J'aimerais beaucoup aller dans le Médoc, dans de beaux châteaux ou même des petites propriétés pour apprendre le savoir-faire qui s'est transmis. Moi, plus tard, je voudrais soit reprendre l'exploitation de mon beau-père, soit avec mon copain, créer quelque chose... Je sais pas trop ce qui va se passer.
Est-ce qu'avec tes collègues de la Tour Blanche ou de Blanquefort, vous échangez sur cette crise viticole?
Oui,
arrachage, distillation, qu'est-ce que vous vous dites? Quelle est l'ambiance quand on fait bac pro par les temps qui courent?
Alors l'ambiance est vraiment très tendue des fois, parce que à la Tour Blanche, on vient de beaucoup d'endroits différents. Il y en a qui viennent de... de l'Entre-deux-Mers. Il y en a d'autres qui viennent de Bordeaux, du Médoc ou des Landes. Et on n'a pas tous les mêmes terroirs, les mêmes points de vue. Je sais que moi, je dis que les vignobles qui sont basés sur plus ou moins de mauvais terroirs qui devraient être arrachés, ou c'est peut-être le mieux de planter du blé ou faire de la grande agriculture. Ceux qui sont là-bas, ils me disent « Ben non, nous on a nos vignes, c'est comme ça depuis toujours, on va pas bouger. On fait du vin, on le vend en négoce, on le vend en vrac, et ben on bougera pas. » Moi, je suis pas vraiment d'accord, je suis plutôt sur le fait que ceux qui sont dans des terroirs où c'est mieux de planter pour faire du blé ou quoi, c'est mieux parce que la France en a aussi besoin. Et nous, quand on a plutôt de bons terroirs, c'est mieux de se spécialiser dessus. Après, c'est mon point de vue, on n'a pas du tout le même à la Tour Blanche. Chacun défend vraiment ses opinions.
Vous ne lancez pas des raisins les uns contre les autres pour lutter pendant les vendanges, vous n'êtes pas d'accord. Hein.
Mais on voit que finalement, au lycée, ce sont les mêmes débats qui sont en train de traverser la société. Hein.
Exactement.
Et oui, qui déterre à vache ou qui déterre à vin, finalement.
Mais ça veut dire qu'il y a des étudiants avec toi, ça veut dire qu'il y a, des élèves qui y croient, il y a des enfants qui y croient, il y a des élèves qui arrivent d'autres milieux viticoles, d'autres milieux que la viticulture qui y croient.
Oui,
ça,
aussi, oui.
D'accord,
oui,
ok.
Oui. Ah oui, mais je sais que après le vin, c'est la viticulture, c'est une passion. C'est on l'a ou on l'a pas. Je sais que ceux qui viennent du Médoc, par exemple, mes amis proches, eux, ils sont passionnés de ça. On leur a transmis depuis toujours. Eux, c'est le vin, ils sont passionnés de ça, ils vivent pour ça. Je sais qu'il y en a qui partent faire des concours de taille, par exemple en Espagne ou quoi, c'est parce que c'est leur passion. Ils veulent vivre de ça. Et ils sont vraiment, ils sont même optimistes pour plus tard, quoi, parce qu'ils y croient.
Est-ce que toi, tu as déjà des goûts, entre guillemets, de vin. Est-ce que, avec tes camarades, est-ce qu'il y a des tenants des vins un peu nature? Est-ce qu'il y a des tenants des vins dont, avec des assemblages, ou justement des monocépages? Comment tu perçois, en fait, les débats qui ont lieu chez les amateurs aujourd'hui?
Au niveau des styles de vin, moi, je suis plutôt sur les vins un peu fruités. Après, je suis un peu moins, je l'avoue, sur les vins qui sont corsés, par exemple, comme les vins du Médoc. Je suis un peu plus sur des vins fruités. Par exemple, je préfère le cépage du Merlot. Je pense qu'il faut aujourd'hui partir sur du vin blanc, arrêter un peu le vin rouge, commencer à replanter des vignes en blanc pour en faire de plus, parce que c'est ce qui est le plus demandé aujourd'hui. Moi, je suis jeune et je sais que je bois vraiment quasiment que du vin blanc. Personnellement, je pars vraiment là-dessus. Le vin rouge, c'est pour les amateurs de viande, mon point de vue, les choses comme ça, mais je pense que le vin blanc est aujourd'hui le plus approprié.
Tu vas être embauchée comme consultante au CIVB. je me tourne à nouveau vers vous, cette fois-ci, Béatrice Anne. Vous avez parlé aussi tout à l'heure de nos tourismes. Oui. Ça veut dire qu'il y a des projets pour vous sur ce point?
Ah, mais totalement. En fait, ça a été un petit peu une obligation. Alors, on parlait de terroirs. C'est vrai que quand on a des beaux terroirs, il faut les raconter. Alors nous, nous sommes sur Cadillac, en côte de Bordeaux, où il y a quand même aussi un projet de classement UNESCO. Et puis, petite propriété viticole, ça ne veut pas forcément dire, même s'il y a marqué château, vieille tour, ça ne veut pas forcément dire que je suis châtelaine ou que mon mari est châtelain. On n'a peut-être qu'une petite propriété, même si on a une jolie tour en ruine. Mais quoi qu'il en soit, même si on est dans un petit endroit, on a de temps en temps de jolies choses à raconter, et puis on a peut-être aussi un grand terroir. Donc, il y a plein de choses à raconter, et puis surtout, si vous avez des portes qui se ferment, ben, il faut en ouvrir d'autres. Alors effectivement, nous, ça a été énormément la digitalisation, vendre sur Internet, surtout pendant le Covid, il a bien fallu trouver des solutions. Et puis après, ben, l'idée, c'était quand même de recevoir les gens à la propriété. Voilà. Donc, si on reçoit, ben, on crée des expériences, en fait, hein, grâce à l'œnotourisme. On crée du lien, on raconte une histoire et puis on raconte un vin.
Et vous commencez à le faire, ça?
Ah, mais alors, totalement.
Et donc,
totalement.
Cet été, vous allez booster l'œnotourisme?
Et cet été, on va énormément booster parce qu'on a mis en place l'année dernière. Alors, ça a été un partenariat que j'ai trouvé extraordinaire avec Frédéric Noe et son équipe de la Bulle Verte. La Bulle Verte, en fait, c'était une sorte de concept de slow tourisme où on crée, en fait, un lieu d'accueil où on met à disposition disposition des VTT à assistance électrique avec des parcours qui sont audio-guidés. Et en fait, ça nous permet de raconter ce qu'on a envie de raconter. Donc nous, en l'occurrence, on a vraiment axé notre discours autour du terroir, de la transmission du savoir-faire et surtout de la biodiversité. Et donc, en fait, découvrir les coteaux aux gens à VTT à assistance électrique. Et puis, la vieille tour étant une vieille tour, mais aussi un site magnifique. En fait, vous imaginez, vous êtes sur le site d'un ancien moulin, sur un coteau qui culmine à 110 mètres d'altitude, avec une vue à couper le souffle sur la vallée de la Garonne, on y accueille du monde et on y fait des soirées. Voilà.
Et puis on accueille les jeunes aussi de par les soirées de la vieille tour. C'est vrai que c'est aussi pour un peu attirer la jeunesse, faire venir du monde, les jeunes qui viennent passer les soirées dans ce beau site et puis goûter des vins.
Diane, tu es optimiste pour la consommation des jeunes.
Ah ouais, vraiment?
Oui.
Vraiment.
Si tu peux nous aider à en recruter.
Non, mais de l'optimisme, c'est formidable. Donc, je retiens les coteaux, la vue depuis les coteaux de la vieille tour. Je retiens les soirées de la vieille tour qui recrutent des jeunes.
Ce
podcast, malheureusement, se termine. Merci Béatrice Anne, merci Diane. Le château Vieille Tour de Jérôme et Béatrice Anne Gouin, on le note sur nos tablettes. Merci César.
Merci.
Et merci à vous tous qui êtes toujours plus nombreux à écouter nos podcasts. N'hésitez pas à nous envoyer vos remarques, avis ou suggestions pour nos prochains épisodes à podcast@sudouest.fr. Retrouvez tous nos épisodes sur sudouest.fr et pour ne pas manquer les prochains, abonnez-vous sur Deezer, Spotify, iTunes ou Google Podcast. À la semaine prochaine, d'ici là, portez-vous bien et rappelez-vous, le meilleur vin n'est pas nécessairement le plus cher, mais celui qu'on partage avec modération et responsabilité.